Bonsoir et bienvenue pour cette quatrième séance des regards critiques que le cycle confie à Bernard Eisenschitz qui s'appelle « Ceci n'est pas un documentaire ». Cette séance va regrouper trois films choisis par Bernard Eisenschitz et le premier n'est pas sous-titré en français. Et donc vous allez avoir une traduction simultanée par un spécialiste de la traduction.
Donc une explication sur cette séance qui s'est définie comme toutes les séances du cycle, par les contrariétés, la limitation d'un programme de six séances, alors qu'il a 12 auraient été bienvenues. Mais j'étais parti sur une idée de la séance. C'était, comme je le dis un peu dans le document, dans le dépliant, j'étais parti d'une idée d'un documentaire d'auteur, ce qui n'était pas le cas, à quelques exceptions près, Visconti bien entendu, dans les autres séances. J'avais envie de montrer ce que faisaient des cinéastes, pas nécessairement des documentaristes, devant un choix de non-fiction et également devant une contrainte extérieure. C'était le principe qui a conduit à amener ces trois films, le film de Pasolini dont je vais dire quelques mots tout de suite, le film de Robert Kramer qui m'avait semblé être un moment extrêmement important dans l'idée de fiction-non-fiction, dans cette perturbation, cette intrication qu'il peut y avoir entre l'idée de fiction et de non-fiction, et puis celui de Jia Zhangke qui m'avait énormément impressionné. Je l'avais vu dans un festival par hasard, et pour moi ça a été un moment extraordinaire, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Donc le film de Jia Zhangke, pour moi, allait de soi dans ce type de programmation. Maintenant, le film qui fait question ici, c'est évidemment le premier, c'est ce qui s'appelle en français, le film a été très peu vu en France, il est passé dans une version doublée sur Planète, une fois sous le titre Pasolini et l'architecture, et son véritable titre c'est Pasolini et la forma della città, Pasolini et la forme de la ville. Et en travaillant sur la séance, je me suis aperçu que finalement, plutôt que de parler de privé public, ce qui était une référence au film de Jia Zhangke, In Public, j'aurais pu appeler la séance « La forme de la ville » puisque les trois films sont des films sur le sentiment de la ville dans le cas de Pasolini et le sentiment d'une ville dans le cas des deux autres cinéastes. Alors que s'est-il passé pour qu'on puisse inclure ce film de Pasolini dans son canon ? Ce film est signé, la réalisation du film est signée de Paolo Brunato. Et il s'agit d'une série qui s'appelle « Io e, moi et ». Et cette série semble-t-il, je ne sais pas grand-chose de cette série, mais cette série semble-t-il était consacrée à des personnalités qui étaient des personnalités qui décrivaient un monument ou un édifice ou une œuvre sur le point de disparaître. Pasolini a pris au pied de la lettre la règle du jeu, bien sûr, mais il a pris un peu plus que il l'a prise un peu plus au pied de la lettre. Voilà, la série est conçue par une femme qui s'appelle Anna Zanoli, que nous ne connaissons pas, mais j'apprends par un texte de Gianfranco Contini. Gianfranco Contini a été le tout premier critique de Pasolini. Sous le fascisme, en 1942-1943, il a été le premier à rendre compte de ses poèmes friulants. et il est resté son interlocuteur jusqu'à la fin de sa vie et après la fin de sa vie. Donc Gianfranco Contini est un homme sûr et qui parle de ce film et qui explique que je ne vais pas trop vous en dire avant le film, d'autant plus qu'il faut que je parle beaucoup pendant le film pour le traduire. Pour Gianfranco Contini, donc, Pasolini a donné une des clés de son idéal paysagiste lors d'une émission de télévision. Elle était menée avec beaucoup d'intelligence par une élève de Roberto Longhi, ce détail a son importance, dit Contini, et consacrée à un monument ou une œuvre d'art qu'un intellectuel proclamait en péril de disparaître. Le reste décrit le film que vous allez voir. Bon, pourquoi Roberto Longhi ? Roberto Longhi était un historien de l'art, né en 1890, et qui a été le maître de Pasolini à l'université. Pasolini a fait des études d'histoire de l'art et voulait, en 42-43 aussi, faire sa thèse sur le baroque avec Roberto Longhi. Ça a donc été une des influences considérables sur son travail. Je prends toujours, considérez toujours que je mets des guillemets au mot influence, qui est un très mauvais mot. Disons, Longhi a été aussi une personne importante dans la vie et dans le travail de Pasolini. Et de Longhi, on a, en dehors de ses écrits sur l'art, Longhi s'est intéressé au cinéma et il a fait vers 1950-51 deux films sur des peintres. Un seul est conservé, c'est un film sur Carpaccio, que je n'ai pas inclus ici parce qu'il posait les mêmes problèmes que celui-ci, problème de traduction. Et d'autre part, c'est un film d'apparence tout à fait traditionnel, comme l'est celui-ci, c'est-à-dire c'est un discours écrit qui est conçu en même temps que l'image, mais qui peut néanmoins être pris pour une illustration. L'image peut être prise pour, à tort, à mon avis, comme ici, pour une illustration du discours littéraire. Le film de Longhi, en fait, va à contre-courant d'une tradition d'alors du cinéma italien, tradition qui avait d'ailleurs été saluée abondamment par la critique française, qui était la fictionnalisation des grandes œuvres du passé, et en particulier un cinéaste qui est toujours vivant, un bon cinéaste, Luciano Emmer, qui lui faisait des films qui s'appelaient comme « Récits d'une fresque ». Et au lieu de parler en historien ou en critique de l'art, de la fresque en question, il racontait l'histoire que racontait la fresque, l'histoire de la Sainte Famille, de la fuite en Égypte, etc. Ce que Longhi trouvait ridicule. Et Longhi a donc fait ce film, réalisé par le critique communiste Umberto Barbaro, pour étudier au contraire le Carpaccio sous l'angle stylistique. C'est un film tout à fait passionnant que vous ne verrez hélas pas à moins d'aller en Italie et de l'acheter. Il existe en VHS accompagné d'un livre, d'une documentation et du texte écrit. Bon, donc ceci dit, que s'est-il passé avec ce film La forme de la ville? En 73, Pasolini était vers la fin de ce qu'il a appelé la trilogie de la ville, le Décaméron. Il avait fait en premier, je crois qu'il avait fait le Décaméron en premier, ensuite il a fait les Contes de Canterbury, et ensuite il a fait La Fleur des Mille et Une Nuits. Dans le Décaméron, je ne garantis pas la chronologie, dans le Décaméron, il avait tourné un épisode au Yémen. En fait, il avait été en 68 à Aden, et il s'était intéressé à faire un documentaire sur l'intérieur du Yémen. Il disait « Je voudrais prendre une caméra et ça serait la caméra et moi, nous ferions la découverte du pays puisque je n'y suis jamais allé, je n'ai jamais quitté les côtes et je voudrais découvrir l'intérieur du pays. » En 70, il y est allé, il a tourné là un épisode du Décaméron, épisode qui a été coupé au moment du montage du film. Il a découvert un pays donc divisé en deux, Le Yémen existait alors sous forme de deux pays, un pays qui était communiste maoïste, qui était le Yémen du Sud, et un pays qui était encore, qui gardait encore la forme monarchique sous une forme d'émirat. Le Yémen n'a jamais été un pays très uni. Donc la division du pays a pu être résorbée assez simplement dans les années 90, longtemps après la mort de Pasolini. Maintenant, donc, depuis 90, le Yémen est un pays réunifié, mais qui reste néanmoins un pays tribal où beaucoup de tribus dominent des régions entières sans intervention du pouvoir politique, dans une espèce de statu quo qui est une des raisons pour lesquelles on entend tellement parler du Yémen aujourd'hui. Et Pasolini, le dernier jour de tournage, épuisé par le tournage de cet épisode du Décaméron, trouve encore la force de tourner un film qui s'appelle « Les murailles de Sanaa », parce qu'il perçoit dans ce pays, dans cette capitale du Nord, qui est aujourd'hui la capitale du pays, il perçoit la disparition menaçante et même entamée de ce qui fait l'aspect extraordinaire de cette ville. Il faut se souvenir que les Occidentaux ne sont pas arrivés à Sanaa, les explorateurs ne sont pas arrivés à Sanaa avant les années 30. Dans les années 30, un explorateur allemand a pu arriver jusqu'à Sanaa, a été toléré à Sanaa, et bien sûr, comme il y avait un explorateur allemand, il a fallu immédiatement que les Anglais y aillent. Mais la ville était intacte de tout contact avec l'Occident jusque dans les années 30 du XXe siècle. Donc, Pasolini découvre le capitalisme qui arrive à Sanaa, la volonté des propriétaires de construire d'autres maisons, la destruction déjà entamée de cette muraille qui enclôt la vieille ville. Et il fait un film un dimanche matin, le dernier jour de tournage, ou après le dernier jour de tournage, il fait un film qui s'appelle La muraille de Sanaa ou Les murs de Sanaa, que j'ai choisi de ne pas vous montrer pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est trouvable en supplément du DVD MK2 de L'Arabia, La Rage, film de montage de Pasolini. Donc vous pouvez le voir avec des sous-titres français. Deuxièmement, parce qu'il se termine, bon alors là c'est pour une question de goût tout à fait personnel, parce qu'il se termine sur un appel à la volonté du peuple yéménite. Alors il précise bien « volonté encore non exprimée du peuple yéménite de conserver son patrimoine ». Le peuple yéménite ne le sait pas, mais il faut qu'il conserve son patrimoine. Alors vous allez voir ici, dans ce film pas tout à fait contemporain, le point de vue de Pasolini a légèrement changé. Donc le film « La muraille de Sanaa » est tourné en octobre 70 et n'est présenté qu'en juin 74, en avant-programme, en court-métrage précédant « Les mille et une nuits » de Pasolini. Donc c'est le dernier film rendu public de Pasolini avant « Salò » de 1975, année de son assassinat. Entre-temps, cet élève de Longhi a sollicité Pasolini pour apparaître comme interviewé dans un film sur une œuvre menacée de disparition. Et Pasolini choisit, comme il le dira et à satiété dans le film, la forme de la ville. Et dans cette forme de la ville, je crois qu'il vaudrait mieux que je m'arrête et que je vous montre le film. Toujours est-il qu'il faut quand même préciser que la muraille de Sanaa, vous le verrez si vous vous procurez le DVD, la muraille de Sanaa était un documentaire en forme d'appel à l'UNESCO. Il s'agissait de demander à l'UNESCO de déclarer Sanaa patrimoine de l'humanité et de sauver cette muraille menacée. L'UNESCO a répondu, à titre posthume, à Pasolini en déclarant en 1984 que Sanaa était en effet patrimoine de l'humanité et en 1988 a lancé une campagne pour la restauration de la ville, campagne à laquelle ont pris part plusieurs pays. La Fondation Pasolini elle-même y a pris part Et ironiquement, il se trouve que la muraille proprement dite a été restaurée sur initiative du président de la République française d'alors, Jacques Chirac. C'est une petite ironie qui n'empêche que la vieille ville donc de Sanaa est aujourd'hui dans un état de conservation réel. C'est la vieille ville dont vous verrez une minute dans ce film, et c'est une grande partie de la muraille qui est conservée, qui est entourée maintenant d'une ville moderne de type ville du tiers-monde, et dont la silhouette est déformée, non pas par de nombreux minarets, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. Mais la silhouette de Sanaa, qui est une ville entourée de montagnes et qui a une silhouette extrêmement harmonieuse, cette harmonie n'est troublée que par un immeuble qui, comme par hasard, se trouve être l'hôtel Sheraton. Donc maintenant, nous allons voir le film dont il est clair. Alors la dernière chose que je veux préciser, pourquoi choisir ce film plutôt que la muraille de Sanaa? Pourquoi choisir un film qui n'est pas signé de Pasolini? Parce que c'est le film que Pasolini a voulu, que, selon le témoignage de Paolo Brunato, le réalisateur en titre, Pasolini s'est immédiatement emparé de la caméra, donc il y avait deux caméras, et vous le verrez presque tout le temps à cet Ariflex, pendant que le son est pris par ailleurs et qu'une autre caméra le filme, que d'autres le photographient. Donc le discours est un discours extrêmement construit de Pasolini. Vous allez voir que son intervention ne se limite pas à un discours verbal, mais va jusqu'à une intervention sur le scénario proprement dit. Vous allez comprendre pourquoi et comment. Je vous montre le film et j'espère que ça marche. Et j'espère que la traduction vous donnera à peu près à comprendre sans perdre la voix de Pasolini. Bon, je pense que vous avez compris la raison pour laquelle j'ai choisi ce film de préférence à la muraille de Sanaa. La muraille de Sanaa se terminait sur la confiance en la volonté d'un peuple, le vouloir et le savoir indispensable à l'innocent pour ne pas, devant la réalité, devenir coupable. Les Yéménites, simples et purs, encore innocents, dont l'innocence est restée miraculeusement saine. Alors saine, évidemment, en italien est sana, homonyme du nom de la capitale, doivent apprendre à vouloir conserver le passé qui les constitue. Ici, on est dans la période, au contraire, de l'abjuration, la fameuse abjuration par Pasolini de la trilogie de la vie qu'il a terminée. Et devant cette constatation que les espoirs pour un avenir populaire de l'Italie ont été réduits à néant par ce néo-capitalisme, par ce capitalisme de la société de consommation. Et sa conclusion est parallèle à l'abjuration de la trilogie de la vie et annonce probablement, d'une certaine manière, la noirceur absolue de Salò, des 120 journées de Sodome. Il me semble de cette manière qu'un film entièrement de paroles, un film qui semble être une simple interview télévisée, peut devenir autre chose et peut servir de modèle le simple respect de celui qu'on interroge, qui est très souvent remis en cause dans les documentaires ou dans les travaux télévisés qu'on voit aujourd'hui, peut être une manière d'intervenir. Par ailleurs, vous avez remarqué évidemment les décalages entre le tournage très simple d'Orte, où on voit malgré la qualité médiocre du DVD, on peut percevoir cette qualité d'abstraction, cette qualité d'aplat qu'il y a dans le 16 mm. Cette qualité, dont Cocteau parle dans Villa Santo Sospiro. Cocteau a tourné ce petit film sur la villa de ses amis, Santo Sospiro, qui est un film un peu commentaire de lui-même, où il s'amuse à commenter la déformation de la réalité par la couleur. Et on peut retrouver cela dans ce 16 mm qui, à la différence d'un 35 mm ou à la différence sans doute du numérique évite de saturer les couleurs et retrouve magiquement, me semble-t-il, pour les deux visions que j'en ai eues, enfin pour les visions de VHS que j'en ai eues et pour cette vision de travers que j'en ai eue, retrouve magiquement ces couleurs de la Renaissance du Nord de l'Italie, ces verts, ces bleus azurés et ces verts et ces bruns de la peinture de la Renaissance qui comptait tellement pour Pasolini. Bien entendu, nous ne sommes pas dans le nord de Pasolini, nous ne sommes pas dans le Frioul, nous sommes à une centaine de kilomètres au nord de Rome, c'est à peu près au nord, près de Viterbe, alors que Sabaudia est un peu au sud d'Anzio, donc pas très loin de Rome non plus, sur la côte, donc de la... sur la côte au sud, également à une centaine de kilomètres de Rome. Il n'empêche que cette image non soignée, médiocre, a la magie, a une certaine spontanéité de la chose non améliorable, alors qu'aujourd'hui on peut tout améliorer avec le numérique, du non améliorable, de l'opaque, du gros trait qu'on peut retrouver dans la peinture. Souvenez-vous aussi du texte de Danet sur le film de George Stevens sur la découverte des camps en Allemagne, où Danet comparait cette image grossière du 16 mm à la peinture de Rembrandt. Il y a quelque chose de ça dans ce film qui n'est peut-être pas un film qui est un film d'auteur sans être un film d'auteur tout en l'étant. Enfin, bon, la chose est assez... La chose reste indéterminable en fin de compte, mais il me paraissait plus important de montrer le film et de faire entendre la voix de Pasolini et de montrer les cadrages qu'il avait choisis, de montrer les films qu'il avait choisis, d'intégrer dans le film, puisque là, évidemment, on vient de lui. Ça vient de lui. Vous avez donc quelques plans de la muraille de Sanaa intégrés. Vous voyez Sanaa et vous avez quelques plans de cette ville du Népal, puisque c'est au Népal qu'il avait tourné quelques mois avant l'enregistrement de l'émission. C'est au Népal qu'il avait tourné un des épisodes de La Fleur des Mille et Une Nuits. Voilà, donc on est là dans une décision à la fois scénaristique et de réalisation qui va jusqu'au cadrage, même si elle ne va pas jusqu'au montage, mais avec le respect aussi, le respect qui lui est montré. Ce respect me paraît aussi peut-être une leçon à tirer pour la télévision. Et ceci ouvre également sur cette phrase qu'a commenté de manière assez passionnante Hervé Joubert-Laurencin, qui a beaucoup travaillé, qui est un des meilleurs connaisseurs de Pasolini, sur cette phrase que Pasolini écrivait à propos de lui-même. Pasolini aime la réalité, mais il n'aime pas la vérité. Ce qui était une manière pour Joubert-Laurencin, phrase totalement énigmatique que je ne vais pas commenter. Je crois que le texte de Joubert-Laurencin, d'ailleurs, est assez facilement trouvable sur Internet, mais que Joubert-Laurencin avait utilisé pour décrire ce projet documentaire, ce projet de non-fiction de Pasolini, dont la forme de la ville est la dernière manifestation, la forme de la ville et les murailles de Sanaa sont la dernière manifestation. Manifestation croisée parce que dans la muraille de Sanaa, Pasolini intègre aussi des plans d'Orte. Donc il a tourné la muraille de Sanaa ce dimanche d'octobre 1970, mais il n'a monté le film qu'après l'enregistrement de l'émission. Joubert-Laurencin argumente en préférant le terme de réalité au terme de réel, désormais acquis et accepté, l'excellent festival qui va suivre en est la preuve par l'ensemble des documentaristes, en faisant une différence entre réalité et réel. et précise que pour connaître Pasolini, il faut non seulement connaître son œuvre cinématographique de fiction, mais aussi revoir l'intégrale de ses essais documentés, constitués de ses films-essais, de ses films de voyage et de repérage, de son film de montage d'actualité, donc l'Arabia, de son film pro-gauchiste, que je n'ai pas vu, de ses films sur un film à faire, note pour un film pour une oristie africaine, note pour un film sur l'Inde, tous ceux qu'il a lui-même à plusieurs reprises appelé ses appunti, ses notes, ou carnet de notes, terme qu'il ne faut pas entendre négativement comme synonyme de brouillon ou de film de fond de tiroir, mais au contraire comme indiquant un caractère supérieur, super poétique et super réaliste de non finito. Et c'est en effet, c'est ce que je disais à propos du film de Visconti, qui s'appelle également Appunti, mais qui à mon avis était Appunti dans un sens tout à fait opposé, c'est-à-dire pour Visconti, Appunti voulait vraiment dire des notes, voulait dire qu'il concluait quelque chose dont il ne pouvait pas, développer au-delà, encore qu'il ait essayé d'en faire une version plus longue, mais qui était une œuvre finie. L'idée de l'œuvre finie dominant, bien entendu, le cinéma de Visconti, alors que celui de Pasolini va de plus en plus vers l'inachevé, vers la note, et peut-être même peut-on en voir des traces dans ses films de fiction. En ce sens, d'ailleurs, on pourrait le mettre en parallèle avec un cinéaste considéré comme beaucoup plus classique, mais qui, plus on l'a vu, plus on l'a suivi, et plus il a évolué, il s'est dirigé de plus en plus vers le film essai, vers le film note, vers le film inachevé. C'est un nom assez inattendu quand on parle de non-fiction ou de documentaire. Il s'agit tout simplement d'Orson Welles, dont les deux derniers films sont des films essais et dont les films inachevés sont souvent des tentatives pour un film essai. Il se revendiquait d'ailleurs comme le créateur, pas tout à fait à juste titre, mais enfin, il se revendiquait comme inventeur de l'idée de film essai avec son film inachevé sur Gina, mais qui a été néanmoins été inachevé parce que non montré, mais qui a été retrouvé il y a quelques années, qui est passé au moins une fois à la télévision allemande, qui est passé en fragment à la télévision française, mais qui est passé intégralement à la version allemande. Donc cette idée du film comme fragment est peut-être quelque chose d'important dans une idée du film de non-fiction, dans une idée du cinéma de toute façon, et dans une idée du film de non-fiction en particulier. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des réflexions. Je suis conscient que tout ceci ne constitue également que des notes et qu'on pourrait développer largement sur ce ou ces films ou ce cinéma de Pasolini. Mais s'il n'y a pas de remarques, je vais me permettre, comme la séance est relativement pleine, de passer à un autre cinéaste pour qui l'aspect d'objet entier du cinéma a souvent fait problème, c'est-à-dire Robert Kramer, dont vous avez certainement vu des films. Robert Kramer, donc cinéaste américain de deuxième génération, fils d'immigrés européens, c'est très important, ça sera également important dans le film que nous allons voir, et cinéaste qui a commencé par des films de fiction que nous avons découvert en Europe, en Italie et en France, en particulier autour de 1968. Ces trois films de fiction, plus un ou deux films militants qui s'y ajoutaient, ces trois, quatre films de fiction qu'il a fait entre 67 et 74 ont eu énormément d'importance dans ce nouveau cinéma qui prenait le relais de la nouvelle vague française qui en assumait l'héritage et qui allait au-delà. Kramer, dans ses films étaient des films dont la forme avait beaucoup d'éléments nouveaux, modernistes ou innovateurs, même par rapport à la nouvelle vague, intégration d'éléments de non-fiction parfois fausses à l'intérieur de la fiction, etc., mais est resté un cinéaste de fiction où la fiction et le documentaire généralement militant étaient des formes relativement tranchées jusqu'à son émigration en Europe à la fin des années 70. Ça, c'est un point important. Vers la fin des années 70, Kramer vient en Europe pour réaliser un film sur ce qui se passait au Portugal en pleine révolution, au moment le plus extrême de la révolution portugaise, au moment où Otelo de Carvalho tentait un véritable virage révolutionnaire, suit ça, puis vient travailler en France parce qu'il a la possibilité de travailler en France, qu'il est relativement connu en France, et c'est l'époque aussi d'une télévision d'État généreuse et disposée à faire des expériences comme celle que nous allons voir et beaucoup d'autres qui constituent la filmographie ou parfois la filmographie, ce que j'ai appelé la filmographie secrète de Kramer, puisqu'il tente entre ses films de faire des films. Il offre en cadeau de mariage à des amis un film monté dans la caméra sur leur mariage, etc., etc. Il commence à participer à des films. Bon, ça c'est un des éléments de ce film. L'autre élément de ce film qui s'appelle Berlin 1091, dont le titre est souvent écorché, mais dont le titre, Kramer le précise, je l'ai déjà écorché de nouveau, le titre du film est Berlin 10/90. Il dit les titres ne sont jamais exacts dans les filmographies, les dates non plus. Parfois, je ne sais même pas de quel film on parle. Voilà, l'autre point important dans ce film, que c'est un film où Kramer se montre d'un bout à l'autre. C'est un monologue de Kramer face à la caméra. Alors là-dessus, il y a deux points. D'une part, Kramer s'est souvent exposé dans ses films. Il a fait très fort pour commencer, puisque dans son deuxième long métrage, The Edge, il apparaît sous forme d'un patient qui revient d'une séance d'électrochoc. Et dans le troisième, Ice, il se fait châtrer par une bande ennemie dans une séquence assez épouvantable. Et ensuite, dans un film de Thomas Harlan, Wundkanal, il joue un terroriste qui se suicide à l'aide d'un sac en plastique. Donc son exposition devant l'écran a quelque chose à une part d'exhibitionnisme, ou un peu comme disait Danet à propos d'une certaine nouvelle génération de cinéastes, quelque chose de poseur. Danet ne le disait pas dans un sens péjoratif, mais le disait à propos de cette nouvelle génération de l'après-nouvelle vague. Donc, s'exposer, il y a à la fois s'exposer, s'exhiber, poser pour la caméra. Et ici, on est dans une situation où je crois qu'il n'y a qu'un précédent. C'est une situation où Kramer parle à la caméra, donc pendant cette durée d'un plan séquence de 63 minutes, et il parle de lui-même et de sa situation par rapport à l'histoire. Il y a un précédent. C'est le précédent que je connaisse, mais il y en a d'autres. Des documentaristes ont tenté de faire des films sur eux-mêmes vers la même époque. Mais enfin, le seul précédent marquant, c'est l'intervention de Godard dans Loin du Vietnam. Vous vous souvenez peut-être de Loin du Vietnam. Je pense que Kramer s'en souvenait certainement, puisque son activité militante pour le Vietnam a été importante et que son groupe, le Newsreel, a diffusé pas mal de films diffusés par Sloan à l'époque. En particulier le film de Marker et Reichenbach sur la grande manifestation du Pentagone. Donc je me demande, il me semble qu'ils ont diffusé Loin du Vietnam, donc ils connaissaient certainement, ils connaissaient le cinéma. Je pense qu'ils connaissaient Loin du Vietnam, où Godard explique pourquoi il se filme lui à parler du Vietnam, parce que les Vietnamiens, il a demandé aux Vietnamiens du Nord, bien sûr, on est encore en pleine guerre, il a demandé aux Vietnamiens du Nord l'autorisation de venir chez eux, et cette autorisation lui a été refusée. Et il explique pourquoi, en fin de compte, Ils pensent que les Vietnamiens ont eu raison et que c'est dans ce que nous connaissons qu'il faut créer d'autres Vietnam. Il reprend à ce moment-là la très célèbre phrase de Che Guevara et que c'est dans son travail ici qu'il doit créer ces Vietnam. Bon, voilà. Donc, le point de départ, excuse de prendre le titre du livre d'entretien que j'avais fait avec Kramer, le point de départ a été une commande. Le point de départ des trois films que nous voyons ce soir a été une commande assez contraignante. Donc là, dans ce que nous venons de voir, le point de départ était une commande simplement de télévision. Une commande, voulez-vous être interviewé pour une émission de télévision? Si Pasolini en a fait autre chose, c'est une autre histoire, comme dirait encore Godard. Mais voilà, la commande était une commande de l'INA. La télévision française, donc l'INA, la 7, sous la direction de Thierry Garrel, avait commandé à l'initiative de Philippe Grandrieux une série qui s'appelait Live. Il était possible à l'époque de faire des... C'était les débuts de la vidéo. Il était possible de faire des plans d'une heure, alors que jusque-là, on s'était toujours trouvé limité par la caméra à des plans de 10 minutes pour certaines caméras et de 20 minutes pour certains prototypes, 16 mm, etc. Voilà. Qu'on était parti dans le plan séquence, la possibilité d'un plan séquence d'une heure. Et donc Grandrieux a demandé à des cinéastes, connus ou moins connus, Daniele Incalcaterra, Nick Waplington, Christian Argentino, Dominique Dubosc, Steve Dwoskin, William Carell, Robert Frank, Kent Coblent, Uri Kornhandler, Lasse Naukarinen, Thierry Kunzel et Gary Hill, de faire un film, un plan séquence d'une heure. La règle du jeu était que le film devait être fait en une heure, ce qui voulait dire terminé en une heure, qu'aucune manipulation n'était tolérée, aucun mixage, aucune coupe, aucun ajout, au point que Kramer a souhaité faire, il a dit, bon ben, dans ce cas-là, Kramer travaillait toujours avec le même musicien, Bar Phillips. Et il a dit, très bien, Bar Phillips est en Provence, je suis à Berlin, nous allons nous donner le top de départ par téléphone ou par duplex, et Bar, pendant une heure, va improviser une musique qui sera la musique du film. Ça sera un film fait effectivement en une heure précise. Et on lui a refusé cette possibilité. Donc voilà, je suis déjà arrivé au choix. Mais en fait, Kramer avait à l'époque une bourse de la DAAD pour vivre à Berlin. La DAAD offrait à des artistes la possibilité de passer un an à Berlin pour y travailler. La seule demande était qu'ils y poursuivent leur propre travail. Bon, Ottario Celiani a passé un an là. Il n'a pas fait de film sur Berlin, mais il a monté certains de ses films, etc. Il y en a eu beaucoup. Et c'était évidemment quelque chose qui était destiné à mettre en valeur Berlin-Ouest au moment de Berlin divisé. Kramer est arrivé au moment où Berlin venait d'être réunifié. Mais il est arrivé aussi au moment où la guerre du Golfe s'annonçait. Le film a été tourné le 25 octobre 1990, et si je ne me trompe, la guerre du Golfe a commencé quelques semaines plus tard, suscitant un autre échange entre deux des auteurs des films de la série Live. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais enfin voilà, donc le problème de Kramer était ça, comment parler d'un lieu? Il avait pensé aller faire le plan séquence dans le Golfe. C'était impossible, il avait pensé à Israël. Il avait pensé, je ne sais plus à quoi encore, enfin il avait passé. Et puis finalement, il s'est aperçu, évidemment, comme Godard, que le meilleur endroit, l'endroit où il fallait faire le travail, c'était là où il était, à Berlin. Et Je passe un peu sur ce qui a précédé, mais je suis quand même obligé d'expliquer que le film précédent, le grand effort précédent de Kramer, c'était son film le plus connu, Route One USA. Route One USA suit un personnage, le personnage de Doc, qui descend cette route 1, qui descend le long de l'Atlantique, du nord des États-Unis au sud. Et Kramer avait toujours été très blessé par le fait que le public ne comprenait pas qu'il y avait deux personnages dans le film, l'un qui était Doc, qu'on voyait devant la caméra, et l'autre qui était Robert Kramer, qui était derrière la caméra, qui tenait la caméra, mais qui parlait avec Doc, qui discutait avec Doc et qui vivait aussi les choses avec Doc. Ce n'était pas un simple intervieweur ou un simple stimulant de parole. Ils créaient ensemble les situations. Par moments, d'ailleurs, les uns et les autres se quittaient. Vers la fin, Kramer quitte Doc, le retrouve, etc., etc. Et il était, pour lui, il était un personnage du film. Il était le personnage caméra. Et il dit, quand je suis passé à la commande du plan d'une heure, j'étais tout à fait parti dans l'idée de vivre les choses avec la caméra. Au début, je n'ai pas remis en question le problème du plan d'une heure. Je pensais que c'était une question de contexte. Tout tient à ce que la situation soit assez riche pour pouvoir la travailler. Après, si on est vivant, intelligent et présent, il y a quelque chose à en tirer parce que tout reflète tout. Peu importe, tant que ces éléments sont là, on peut y trouver son chemin, les faire jouer l'un contre l'autre, de manière à faire exploser beaucoup de sentiments, d'idées, d'informations. Ainsi, petit à petit, j'ai commencé à mettre au point le dispositif. Je pense qu'il serait un peu, ça serait là aussi un peu en dire trop que de poursuivre dans ces et dans les intentions et dans le modus operandi de Kramer que de vous le dire avant. Peut-être mieux vaut-il voir le film maintenant et parler de ce. Oui, je voulais encore dire une chose à propos de cette série. Que la série avait été soit ratée, soit trichée. Par exemple, Robert Frank disposait des acteurs, se baladait en camionnette et disposait des acteurs qui montaient des petites scénettes improvisées, etc. Donc on était à une époque où, à la fois par la grande leçon basinienne sur le plan séquence chez William Wyler et chez Orson Welles, et par les possibilités des caméras, et par les films qui avaient suivi ça, comme Verboten de Samuel Fuller, où Luc Moulet, dans sa critique, avait minuté un plan de 7 minutes qui passait d'extérieur en intérieur, il y avait une espèce de fétichisme du plan séquence. Et je pense que c'était ce qu'un ami appelle une FBI, une fausse bonne idée, on était arrivé à ce fétichisme du plan séquence qu'il fallait toujours voir, il fallait toujours, une situation ne pouvait exister qu'avec un plan séquence. Il y avait eu aussi les deux chefs-d'œuvre de Rouch, Gare du Nord, qui était tourné en un plan séquence, enfin deux plans séquences, mais qui n'en paraissait être qu'un, qui représentait le moment où une vie tourne, qui est une fiction qui représentait le tournant d'une vie et le temps où une mort se décidait. Et il y avait également un plan séquence très impressionnant de Rouch qui s'appelle Tourou et Bitti, ou bien les tambours d'avant, que vous pouvez voir sur le premier coffret de films de Rouch, et qui est un moment où Rouch avait attendu toute la journée le démarrage d'une danse de possession, mais une danse de possession, ça ne démarre pas comme ça, il faut que quelque chose se passe. Et à un moment, Rouch, avec sa caméra 16 mm, se dit « le soleil tombe, dans 10 minutes je ne pourrai plus tourner, ça ne sert à rien d'attendre », il commence à tourner. Et le fait qu'il déclenche la caméra déclenche la possession. Et donc dans ces 10 minutes, nous voyons cette possession se déclencher, prendre place et se terminer. Bon, voilà, donc là, tout cela, évidemment, tout le discours autour déclenchait plus le fétichisme de plans virtuoses comme le plan d'ouverture de La soif du mal de Wells, avait déclenché un fétichisme, à mon avis, assez excessif du plan séquence. Pour moi, d'ailleurs, les plus beaux plans séquences de Wells sont dans les Amberson et ils ne durent pas plus de 2 minutes. Mais on y voit beaucoup plus que dans le plan initial de La soif du mal. Bon, et je me souviens d'un cours de Rouch où Richard Leacock, documentariste américain assez connu, avait, les films de Leacock, Pennybaker, avaient été les premiers films de Candid Camera, l'équivalent américain du cinéma vérité français, qui avait peut-être même précédé le cinéma vérité français, avaient été les premiers films à être montrés en salle. Un programme de 3 films était sorti à la Pagode de Leacock, Pennybaker. Leacock est venu ensuite tourner en France. Leacock n'est pas un très bon cinéaste, c'est pas un cinéaste très intéressant, mais il avait dit une chose tout à fait passionnante là. Rouge présentait la caméra Aton, la caméra légère créée par Aton, par Boviala, et montrait que cette caméra est une caméra facile à tenir à l'épaule. C'est une caméra qu'on porte comme un chat sur l'épaule. Et il faisait la démonstration. Il passait la caméra, je portais la caméra qui était encore trop lourde pour moi, et Leacock faisait un grand discours sur cette caméra pour montrer que la légèreté de cette caméra permettait de faire des choses étonnantes. Et les étudiants lui demandaient combien quelle durée dans la caméra, et Leacock leur disait, je ne sais pas, 5 minutes je pense, ou quelque chose comme ça, et les étudiants étaient très très déçus. Ils disaient, ah c'est dommage, parce que on ne peut pas faire un plan séquence, comme il y a un autre plan séquence connu qui est la rentrée du travail aux usines Wander, qui est un plan spontané fait à la fin de mai 68, où des opérateurs revenant d'un tournage raté voient la rentrée à la fin de la grève aux usines Wander, et une ouvrière qui craque, qui dit c'est pas pour ça qu'on s'est battu, qui est furieuse, qui insulte les syndicalistes et tout le monde, qui dit moi je ne rentre pas, qui refuse tout. Et ce plan est tellement impressionnant qu'il a été à l'origine d'un film d'Hervé Leroux qui s'appelle Reprise, où il est parti à la recherche des personnages du plan. Film d'ailleurs dans lequel il n'est pas question du plan séquence, dans ce Reprise d'Hervé Leroux. Il n'est pas question du fait que ce soit un plan séquence. Bref, Leacock leur a dit, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de faire des plans de 10 minutes pour ce cinéaste pour qui je n'ai pas une grande estime? J'ai trouvé que c'était une leçon très très passionnante. Il disait, combien de fois dans votre vie, à combien d'occasions avez-vous vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment votre désir, est-ce que c'est indispensable pour vous de faire des plans séquences? Réfléchissez-y, et si vous avez la réponse, à ce moment-là, on en reparle. Évidemment, personne n'avait rien à objecter à ça. Donc je le dis, mais c'est pas sans agressivité, il me semble que le principe de la série live n'était pas un bon principe, et que ce que nous allons voir, en revanche, est un film qui me paraît très très important depuis que je l'ai vu, et je l'ai vu pour des raisons très concrètes. Voilà, donc nous allons le voir. Je m'arrête de parler. Le meilleur est à venir, hein, pour ceux qui s'en vont. Ce qui vient des... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a-t-il des remarques, des questions concrètes, ou des précisions à apporter? Alors, je voudrais en apporter une. Je pense qu'il y a non pas un malentendu sur le film, mais peut-être quelque chose qui est beaucoup plus perceptible aujourd'hui. Je pense que c'est un film qui date dans un bon sens, mais donc, pas seulement le sens historique, mais aussi le sens du film, de la nouveauté que représentait le film aussi, et du sentiment qu'on avait d'une recherche de spontanéité, de cette histoire qui passait à travers le corps, comme il est dit dans Godard, dans Éloge de l'amour, et que c'était quelque chose, c'est toujours, je pense, quelque chose d'assez fort. Je voudrais dire simplement que peut-être que c'est un cinéaste de la liste noire disait ça, c'est en exil en Europe que je me suis rendu compte à quel point je suis américain, et c'est peut-être le cas de Kramer aussi, partant à la recherche de ces de ses origines, de son père, des choses qui avaient été traversées, de la Pologne dans un projet non réalisé, n'arrivant pas à régler sa relation avec Israël, et restant extrêmement américain dans tout cela, y compris à travers tous les films qu'il a fait en France et qui sont parfois même des films très très français. Mais je voulais dire quelque chose sur le corps, sur quelque chose qui a été perçu à l'époque comme une usure du corps, comme une mise en risque du corps, comme une fatigue du corps percevant à travers lequel passe le temps, c'est ce qui en ferait précisément la chose, ce qui en ferait précisément à la fois l'idéal et le dépassement du principe de la série. Je l'ai dit de manière un peu anecdotique à propos des premières apparitions de Kramer dans ses films. Je pense j'en ai parlé avec lui. Il y a un travail très très particulier sur son corps qui relève beaucoup plus de quelque chose comme on pourrait dire le performance art américain que d'un travail d'improvisation. Il y a une préparation non seulement du texte. Je pense que dans le cas du texte, il y a bien davantage improvisation, mais dans la mise en scène du corps, il y a quelque chose qui a été pratiqué par lui, qui a été travaillé par lui, qui a toujours été pensé comme quelque chose, se mettre dans les films, mettre sa voix dans les films, c'était quelque chose c'était une décision extrêmement mûrie qui n'est pas simplement arrivée avec cette commande ou avec l'occasion d'être acteur dans certains films de la manière la plus frappante dans le film de Thomas Harlan, Wundkanal. Donc il y a un travail, je ne sais pas si je retrouve l'endroit où il le dit. J'avais posé la question là. Non. Peut-être que si, ce que tu fais, bon. Dit « Je me suis entraîné », c'est une relation au corps, disais-je, qui est sans doute plus américaine qu'on pourrait mettre en rapport avec le performance art. On pourrait parler de Laurie Anderson, Meredith Monk, ce que tu fais avec ta voix, voire avec ton accent quand tu lis du français, spontané ou pas. Il y a un certain type de travail. La réponse n'est pas très spontanée, il y a du travail. Un travail qui donne un espace pour l'improvisation. Je fais remarquer. Toutes ces questions de jeu, d'entraînement du corps, d'un certain type de déplacement avec la caméra, tout le problème de la voix, donc là il parle de sa voix, j'y entends la préciosité, le côté étriqué, la sensibilité, on peut y faire quelque chose. De l'autre, il y a des manières de travailler avec ce qu'on a. Je ne les ai pas pratiquées. Le mouvement corporel avec la caméra est très lié à la pratique des arts martiaux. Je ne les ai pas pratiquées parce que je voulais faire des films, je les ai même pratiqués parce que je ne voulais pas faire des films. Je voulais être un guerrier, être plus utile politiquement. En fin de compte, j'ai intériorisé tout cela et beaucoup de ces principes ont pris une grande importance. Ce qui se voit dans la suite de ces... J'essaye de travailler avec les mains, les parties inférieures du corps en pivotant seulement sur les hanches sans bouger les pieds. Pour moi, cela vient de toute une tradition physique. Cela existe dans le performance art et beaucoup d'autres personnes ont suivi le même parcours. Etc. Donc c'est une chose importante par rapport à Berlin 10-90 où on a souvent le sentiment, où beaucoup de spectateurs ont eu le sentiment de la perception de la fatigue du corps, alors qu'en fait c'est un film qui a été préparé de manière assez précise. Évidemment, il y a eu des tentatives de plan-séquence en extérieur ou de plan-séquence interrompu, comme ce plan-séquence avec les camarades politiques qui est avorté tout simplement parce qu'il y a un problème de langue, parce qu'il n'y a pas d'évolution, mais avec aussi le problème du dispositif, qui est un problème qui a été très critiqué par les autres réalisateurs de la série, qui l'ont dit qu'il avait triché, qu'il avait introduit du montage dans le film en préparant ces éléments de vidéo. Or, ces éléments de vidéo sont préparés de manière extrêmement précise. C'est une bande qui a été montée à partir de plusieurs tournages, certains des plans séquences avortés, d'autres des plans véritablement montés. C'est ce qu'il appelle un click track, ce qui joue pour des musiciens. Les musiciens ont des éléments de repère par rapport à les moments, les musiciens de cinéma, par rapport au moment où la musique doit intervenir. Là, c'est la même chose. Il a appelé ça memory track. Et j'ai regardé hier soir la VHS de ça. Et c'est un montage. Donc c'est un montage à la Kramer. Kramer est à la fois un très grand cadreur et un grand monteur, où on a une progression qui donne des signaux aussi à l'interprète, enfin au personnage, au corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'improvisation n'est pas sans filet. Il y a le filet de cette construction monté sur la vidéo, que même s'il ne voit pas, il entend par moment. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de décisions de type corporel, comme par exemple la décision de ne rien dire quand il ne trouve rien à dire, de laisser le silence s'installer. Et puis il y a évidemment le dernier élément qui introduit une discontinuité. Alors ça, c'était une chose qui nous a amusé quand on en a parlé, l'intervention des sous-titres. Les sous-titres, c'est là qu'on voit que les sous-titres relèvent autant du montage que de la traduction. Les sous-titres, dans un plan, produisent un rythme intérieur au plan. Alors à plus forte raison là, puisqu'il était question dans toute la préparation de la série de continuité absolue, de l'absolu, de la fluidité du temps qui passe, et que les sous-titres interviennent bien sûr comme des ruptures dans cette fluidité, et des ruptures qui délibérément reprennent les hésitations, qui font ce qui va contre la règle des sous-titres, de couper une phrase après un article ou après de couper une phrase dans une, de faire des syncopes avec les sous-titres, de mettre l'accent là où il n'est pas dans la phrase naturelle. Voilà, tous ces éléments pour indiquer que dans ce film qui est une non-fiction, ce film n'en est pas pour autant une spontanéité ou une performance sans filet. Il y avait les filets, c'était pensé, ça a été maturé assez longuement, et je pense que à travers le film, à travers la parole, c'est grâce à ces procédures que peut passer à travers la parole et à travers le corps toutes les choses qui se sont retrouvées dans ce séjour à Berlin. Aussi bien la relation de non-parole, de non-échange avec son père, qui est discutée dans d'autres films aussi, que le passé de Berlin et que le présent de ce qui se passait dans les pays, où il aurait, dans le Golfe en particulier, qui a suivi ce film débouche sur un échange de lettres vidéo avec Stephen Dworkin sur ce qui se passait au début 1991. Voilà, je pense que c'est une manière de recadrer peut-être ce film par rapport à l'impression qu'il peut faire, soit sur le moment, soit encore aujourd'hui, où peut-être la surprise immédiate est moins forte, je ne le sais pas. Voilà, et puis j'aimerais venir au film qui est pour moi peut-être le plus nécessaire dans ce programme, sans lequel peut-être que le programme n'aurait pas vraiment existé, à savoir le film de Jia Zhangke, cinéaste chinois, donc de la génération qui a décidé de rompre. Donc Jia Zhangke, cinéaste non pékinois, cinéaste qui a fait ses études à Pékin au moment où commençait à apparaître le cinéma étranger dans les études de Pékin, donc qui n'était pas sans connaître Antonioni, n'était pas sans connaître les notes sur le cinématographe de Bresson, et dont les premiers films étaient des films sur sa région, le Shaanxi, et sur sa ville, Fengyang ou Fengzhen, selon les translittérations. premier film, Xiao Hu, Artisan Pickpocket, et l'autre, Le Quai, qui a été sottement traduit en français par Plateforme, le titre anglais du film. Le troisième film, qui a été vu tout de suite après, ne se passe plus à Fengzheng, son troisième long métrage. Il a pas mal tourné en vidéo avant à l'école de cinéma à Pékin. Je crois même qu'il a créé son personnage de pickpocket qui revient dans des films de Pékin. Et son troisième film sorti en France s'appelle Plaisirs inconnus. Et là, je crois que la traduction française n'était pas justifiée parce que Unknown Pleasures était une allusion à une chanson occidentale. Et se passait dans une autre ville du Shaanxi. Shaanxi, c'est, en tout cas, Fengzheng et Datong, c'est dans le nord de la Chine, mais à peu près rigoureusement à l'est de Pékin. Fengzhen est juste au-dessus et Datong, qu'on va voir ici, est là. Donc on se retrouve avec... une commande, encore une fois. Donc, Unknown Pleasures est sorti en France et il y avait un film que j'ai vu par hasard dans un festival de documentaires qui avait été produit par un autre festival de documentaires. Le festival, donc, il y a un festival de documentaires en Corée qui s'appelle la ville s'appelle Jeonju. Ce festival de documentaires avait commencé l'année précédente à produire avec l'aide d'une corporation coréenne qui produisait peut-être des caméras numériques, je ne sais plus. Chaque année, le festival donnait à trois cinéastes les moyens de réaliser un film d'une demi-heure environ en numérique, sans autre condition que de le tourner en numérique et de tourner d'une manière, disons, pas immédiatement, de ne pas tourner un récit immédiatement traditionnel. Mais enfin, même là, la contrainte n'était pas très forte. La seule contrainte était de tourner en numérique. Et donc, le deuxième de ces films en trois parties d'une demi-heure a été celui où se trouve In Public de Jia Zhangke. Dans ce film d'une heure et demie, il y avait trois demi-heures de... Donc, Jia Zhangke, John Akomfra, qui est un cinéaste africain-anglais, et Tsai Minliang. La plupart des gens qui ont vu le film ont demandé à avoir le film séparément le film de Jia Zhangke. Le festival s'y est refusé, tenant à ce principe d'omnibus de trois films. Et ce qui a bloqué pendant assez longtemps le film que nous allons voir, qui s'appelle In Public, et qui n'a comme seule caractéristique imposée le tournage en numérique. Depuis, le festival a continué. Le dernier, je pense que le plus intéressant, a été l'avant-dernier film dans lequel il y a un film de Farocki, un film muet de Farocki sur un camp. Non pas de concentration, mais de transit en Hollande pendant la guerre, et un film de Pedro Costa qui s'appelle La chasse au lapin au bâton, qui est une autre version de son court-métrage Tarafal, mais qui est une version assez différente de ce court-métrage. Donc le film qu'on va voir est un film tourné à Datong, ville minière, comme vous allez voir, et plusieurs aspects, je m'excuse de plusieurs aspects ont été décrits par Jia Zhangke dans un texte dont j'ai pas retrouvé la date, mais qui parle de manière générale de son travail, mais qui me paraît s'appliquer assez précisément à ce film. Depuis longtemps, donc il s'agissait du premier film qui ne tournait pas dans sa ville natale. Depuis longtemps, certaines choses ont la faculté de me bouleverser totalement. La foule dépassant dans une rue entre chiens et loups, la fumée blanche sortant d'un petit restaurant de rue au lever du jour, tout cela me donne la sensation d'exister vraiment. Doucement épanouie ou tortueuse et complexe, la vie se déroule sous nos yeux en un flux rapide et constant. La vie s'écoule insensiblement. Quand ils sont passés à côté de moi, j'ai senti sur leur corps l'odeur de la sueur qui mouille mon propre corps. Quand nos odeurs se sont mêlées en une seule, nous avons enfin été ensemble, nous nous sommes liés. Sur des visages différents se lisent des traces toutes pareilles. Je veux voir la peau boutonneuse sous la poussière qui couvre les visages des ouvriers, car leur jeunesse si naturellement épanouie n'a besoin d'aucun phare. Je veux écouter le bruit que font leurs bouches quand ils mangent, parce que c'est la récompense de leur honnêteté. Tout existe naturellement, il nous suffit de le regarder et d'en faire l'expérience. Voilà, nous allons voir donc In Public, qui est un film de 34 minutes, 30 plans, autant de découpes dans l'espace et le temps d'une ville. Voilà, cet aspect sous l'apparence d'un bloc-notes purement contemplatif, In Public, je continue de me lire, établit un constant aller-retour avec le spectateur où le naturel de l'expérience est mis en cause. Je ne vous en dis pas plus, sinon que ces 30 plans ont été tournés en 45 jours, donc il ne s'agit pas du tout d'un carnet de notes rapide sur une ville. Je pense que ce sont les renseignements dont nous avons peut-être besoin qui nous suffisent peut-être pour voir ces 34 minutes. Donc voilà, et après, il sera sans doute temps de conclure. À tout de suite.